dans le comportement des jeunes.
Quand on était jeunes, tous les jeunes étaient bien habillés. Ça, je ne comprends pas. Ce con-là.
Il n'y a pas tel nombre d'échanges auxquels les personnes âgées ont accès.
Moi, j'essaie de comprendre. Voilà.
L'entretemps, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Alors vous, les jeunes, à Anne Montand, c'était pas pareil. Ces phrases, nous les avons tous entendues au moins une fois au cours d'un débat houleux. Habitude de vote, de consommation, mode de vie, tout a changé entre la jeunesse de nos grands-parents et la nôtre. Existe-t-il une réelle scission entre eux et nous? Sommes-nous si différents? Sont-ils vraiment tous des vieux cons? Écologie, relations amoureuses, utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Dans l'entretemps, je donne la parole à ceux qui ne nous comprennent pas. Car oui, les vieux aussi ont le droit de se questionner sur le monde. Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 17h30 et c'est l'heure de l'entretemps. 2 minutes, c'est le temps que nous passons en moyenne sur une même source d'information lorsque nous lisons l'actualité. Pour s'informer, comme dans de nombreuses situations de nos vies, il faut faire vite. Nous l'avons vaguement évoqué dans le premier épisode de l'entretemps, les réseaux sociaux ont bouleversé l'approche qu'ont les jeunes de l'information. Disponible en un claquement de doigts, une simple recherche internet nous permet de trouver une information facilement, mais est-elle toujours fiable? Car Internet a aussi apporté son lot d'incertitudes quant à l'information à laquelle nous avons accès. Les fake news fleurissent, sont repartagées sans cesse, et lutter contre elles est devenu un véritable défi pour nos démocraties. Quelles sont les habitudes des jeunes pour s'informer? Et surtout, quels problèmes cela soulève-t-il en termes d'informations fiables? Ce sont des questions que se pose Philippe, 69 ans, et auxquelles nous tenterons de répondre dans ce nouvel épisode de L'Entretemps, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Pourquoi les jeunes semblent accorder beaucoup de crédit à l'Internet pour s'informer? Et je ne comprends pas pourquoi ils négligent, voire oublient des sources plus sérieuses, selon moi, comme la presse généraliste, elle-même bien établie.
Perso, quand je me réveille, mon premier réflexe, c'est d'allumer la radio. Une habitude un peu de vieux, je vous l'accorde, mais que je partage avec Philippe.
Oui, donc Philippe, Robert, Raoul, Chaline, je suis né le 25 mai 1955. Alors mon métier, j'en ai eu plusieurs, mais principalement c'était celui d'avocat. Et désormais je suis retraité de l'avocature.
En effet, selon le ministère de la Culture, 32% des 15-34 ans passeraient uniquement par les réseaux sociaux ou par les moteurs de recherche afin d'accéder à des contenus informatifs en ligne. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les applications des médias traditionnels comme celle du Monde, par exemple. Donc commençons par cela, Philippe. C'est indéniable que le rapport des jeunes à l'information n'est plus le même que les générations précédentes. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que 93% des 15-34 ans s'intéressent à l'actualité. La plus grande partie s'intéresse ponctuellement à l'information, en allant à l'essentiel et en se concentrant sur des sujets qui l'intéressent. Mais 15% déclarent même en être accro. Les réseaux sociaux et Internet sont sans surprise leur moyen privilégié de s'informer, suivi de la télévision et de la radio. Et notre radio chérie n'a pas vraiment la cote auprès des jeunes. En 2016, l'auditoire représenté par les 20-24 ans sur l'écoute des matinales radio n'était que de 5%. Je sais pas vous, mais j'en fais clairement partie. Au vu de la croissance du numérique dans notre accès à l'information, de nouveaux formats ont émergé pour répondre à la demande des jeunes. Les médias l'ont compris, s'ils veulent capter l'attention de leurs lecteurs, ils doivent passer par des articles courts, faire des posts sur les réseaux sociaux ou des vidéos. Cela a notamment permis l'émergence de nouveaux médias et avec eux de formats qui leur sont propres. C'est le cas notamment de Brut ou de Combini. Selon un rapport du think tank Fondapol, 58% des personnes interrogées ne se sentent pas concernées par l'actualité traitée dans les médias traditionnels. Et ça, c'est surtout le cas pour les jeunes. Pourquoi? Car dans cette logique d'économie de l'information, les médias vont chercher à s'intéresser à un public plus âgé, considéré comme plus rentable. Les contenus qu'ils vont traiter seront donc orientés vers eux, plus que vers un public jeune. Ces nouveaux médias comme Brut ou Combini s'adaptent donc beaucoup mieux aux attentes des jeunes.
L'entretemps, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et notre utilisation massive des téléphones, elle a aussi apporté un immense changement. C'est la fin des cloisonnements entre nos différentes activités. Notre téléphone, c'est notre appareil photo, notre moyen de parler à nos potes, d'écouter de la musique, de se divertir et de s'informer aussi. C'est notre outil à tout faire. Bah ça, en fait, ça change pas mal la manière dont on va chercher l'information.
Ouais, parce que maintenant, il y a des moyens tellement pratiques de lire des livres qu'on va sur la tablette, si on a envie d'en lire, mais que parfois, on fait autre chose. On regarde des films. Et puis voilà, et on fait des jeux, tout, tout. Donc, en fait, il y a une explosion des moyens de s'instruire, de se distraire. Et cette explosion, elle est énorme et elle change la vie des gens.
Et donc, ce brouillage, il fait qu'on voit naître de plus en plus de formats qui cherchent à nous informer tout en nous divertissant. Alors, OK pour quotidien, mais un peu moins OK pour touche pas à mon poste. En fait, les barrières se brouillent entre l'information elle-même et l'avis de la personne qui la délivre. Et ça peut être assez dangereux si les auditeurs et les auditrices ne sont pas au courant de ce brouillage. En plus, ça pose un très gros problème, ce brouillage, c'est la tendance à la surinformation. On l'appelle la fatigue intorationnelle. En gros, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on a un accès constant à l'information et qu'on nous inonde en permanence de push sur les réseaux sociaux sans qu'on ait forcément choisi. Conséquence, un grand nombre de personnes se sont complètement dépassées et ne s'est plus vraiment donné de la tête. Philippe, par exemple, il a un temps dédié à l'information. Il décide que son moment avant de dormir sera celui durant lequel il lit son journal.
Moi, je lis souvent au lit le journal, mais la tablette, je crois qu'en plus, elle m'empêche un peu de dormir. En tout cas, c'est un peu pénible d'avoir une tablette.
Alors que pour les jeunes qui ont un accès constant à cette information au bout de la main, ce temps dédié n'existe pas. Laurent Cordonnier est docteur en sciences politiques et il travaille pour l'Institut Descartes. Il est venu parler dans le 18-20 de France Inter du 5 octobre dernier de cette profusion d'informations à laquelle nous sommes confrontés. Déjà, il soulève un paradoxe, c'est qu'on est attiré par les infos qui représentent le danger, donc qui sont anxiogènes par nature. Finalement, on aime bien se faire du mal.
Ensuite, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans l'information. On ne veut pas être informé sur ce qui va bien. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une information. Nous sommes naturellement, vraiment au sens biologique du terme, attirés par les informations qui représentent un danger potentiel pour nous. Et donc, par définition, l'information a tendance à être anxiogène.
Aujourd'hui, la moitié des Français souffrent de fatigue informationnelle et 53% ont du mal à suivre les sujets ou les événements traités. Et ce chiffre, il a bondi de 6 points en 2 ans. C'est ce qu'a observé Gwenaël Go dans son étude publiée sous le nom de Société et consommation. Et elle nous donne un chiffre que j'ai trouvé vraiment impressionnant. En gros, aujourd'hui, en 2 jours, l'humanité produit autant d'informations que ce qu'elle a produit entre le début de la civilisation et 2003. Pour autant, c'est pas parce qu'on crée ce lot d'informations qu'on les creuse forcément. Résultat, un tiers des personnes qu'elle a interrogées limitent leur consommation d'informations du fait du stress et de l'angoisse que cela procure. Ces personnes sont en fait souvent de jeunes urbains hyper connectés qui sont nés dans les technologies et avec un rapport assez actif à l'information. En fait, les médias aujourd'hui, ils cherchent plus à capter notre attention qu'à nous informer réellement. Pourquoi cela ? Déjà car il existe une réelle économie de l'attention, grâce aux publicités, mais aussi par la vente de nos données.
On observe un phénomène nouveau, celui qui est de l'éditorialisation de l'actualité par les algorithmes. Avant l'émergence des réseaux sociaux, quand vous lisiez un journal, vous le lisiez avec une deuxième page, etc., etc. Et ça reflétait le choix d'une rédaction. Okay. Et aujourd'hui, cette éditorialisation est confiée à l'algorithme. Oui. Or, l'algorithme, son travail, c'est pas suivre une ligne, on va dire peut-être idéologique, politique, c'est de suivre une ligne de qu'est-ce qui va faire que les gens restent sur le réseau social.
Philippe déplore d'ailleurs cette tendance des médias à la recherche du buzz et des gros titres.
Moi, j'en vois qui me courent après. Là, ils m'envoient des informations avec des scoops et tout. Je me dis, mais ils me font rigoler avec ces scoops.
Bon, donc en gros, s'informer par des moyens numériques, ça nous épuise. On n'a pas confiance et surtout, les infos sont vachement moins sûres que sur les médias traditionnels.
Oui, mais quelle garantie vous avez ? Non, et je trouve que les garanties, elles sont qui émanent de quelque chose de solide et qui a un potentiel d'information et de sérieux. Et donc, je garde le respect du sérieux, du travail sérieux.
Vous l'aurez compris, nous allons parler fake news et théorie du complot, mais ça, ce sera après avoir écouté War de Fouché.
Oh,
Vous écoutez toujours L'Entretemps, l'émission qui fait dialoguer les générations. Aujourd'hui, on se penche sur les questionnements de Philippe, qui s'inquiète un peu des moyens dont les jeunes s'informent.
L'Entretemps, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et on s'attaque maintenant aux fake news, ce mot qui revient sans cesse dans le débat public et qui fait les gros titres. Déjà, faut faire la différence entre plusieurs cas. Selon l'UNESCO, il existe la désinformation, c'est lorsque des informations fausses sont délibérément créées pour nuire à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. Mais on a aussi la mésinformation, c'est des informations fausses mais qui ne sont pas créées dans l'intention de nuire. Et on a enfin la malinformation, c'est une situation dans laquelle des informations sont basées sur la réalité, sont utilisées pour infliger un préjudice à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. En général, la moitié des utilisateurs ont été confrontés à une fake news. En France, en 2019, 45,5 millions de tweets ont relayé ou commenté une fake news. Pourquoi c'est un problème de taille ? Déjà parce que l'information à laquelle on a accès, elle peut influencer nos opinions. Les fake news jouent souvent sur l'émotion pour nous faire réagir et nous influencer. Mais cette influence, elle n'existe pas que avec les réseaux sociaux. On écoute Philippe.
C'est évident que là, j'ai une source garantie, qui est saine et sérieuse. En plus, équilibré, parce que c'est un journal de centre-droit, plutôt de centre-gauche. Bon, bah, il me va très bien, et d'ailleurs, peut-être à cause de lui ou grâce à lui, je suis devenu plutôt de centre-gauche.
Vous voyez, lui aussi, il est influencé par les journaux, les médias traditionnels qu'il lit. Du coup, pour les personnalités politiques, c'est une aubaine. On en voit de plus en plus se saisir des réseaux sociaux pour faire campagne, comme ce fut le cas de Jordan Bardella, par exemple, au moment des élections européennes.
Sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, où il est effectivement très fort, il va utiliser une méthode qui consiste en fait à imiter la façon de faire des influenceurs hein, ou des TikTokers, c'est-à-dire il va adopter tous les modes de fonctionnement, tous les formats, tous les rites qui sont utilisés par les TikTokers, avec les mèmes, avec de la musique, en se montrant dans sa vie quotidienne, et du coup, sans véritable contenu politique. Son objectif sur TikTok, ce n'est pas de convaincre les électeurs d'adhérer aux idées du Rassemblement national. Son objectif, c'est de gagner en notoriété et d'apparaître comme quelqu'un de sympathique auquel les gens pourront s'identifier.
Les réseaux sociaux comme TikTok ou X permettent à ces personnalités de s'exprimer plus librement que dans les médias traditionnels, car bien moins régulés, et leur permet surtout de jouer le jeu de l'algorithme. Celles et ceux ayant compris comment gagner de la notoriété et de la visibilité sur les réseaux sociaux en postant un contenu mis en avant par les algorithmes ont tout gagné. Et ça leur permet de toucher un public jeune, pourtant plus réticent aux campagnes et moins enclin au vote.
Mais le problème, c'est les réseaux sociaux et puis c'est certains sites qui attirent plus que d'autres, et où les plus jeunes ou les moins instruits, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études, etc., se précipitent et ça fait jusqu'à des revirements politiques. Moi, je vois par exemple que l'extrême droite qui vient maintenant, qui avance dangereusement, l'extrême droite, elle bénéficie, je sais pas, de certaines choses que s'ils lisaient des journaux un petit peu sérieux, ne serait-ce que le Figaro et le Monde, les gens, ils éviteraient peut-être de croire certaines choses.
Comme le déplore Philippe, pour les personnes peu éduquées au danger des réseaux sociaux et à la possible manipulation de l'information, cela peut représenter un grand danger. polarisant le débat public. Mais contrairement à une idée reçue assez répandue, les jeunes ne sont pas la catégorie de la population qui diffuse le plus de fake news. En général, plus méfiants face aux sources, ils auront une tendance à vérifier l'information avant de la partager. En revanche, les plus de 60 ans, et oui Philippe, sont moins à l'aise avec quelle information peut être vraie, laquelle peut être manipulée. D'ailleurs, il y a une étude publiée dans Science Advances en 2019 qui a été réalisée pendant l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis et elle a montré que les utilisateurs âgés de plus de 65 ans avaient partagé jusqu'à 7 fois plus de fausses informations que les jeunes de 18 à 29 ans. Philippe, attention à ce que vous partagez s'il vous plaît. Et celles qui n'ont jamais autant influencé le débat public justement, ce sont les théories du complot.
Passer en revue les théories du complot les plus étranges et les plus célèbres qui n'étaient pas des théories mais finalement bien des faits.
Antoine Bristiel est chercheur à la Fondation Jean Jaurès spécialisé dans le complotisme. Son étude de ces mouvements a montré que 3 Français sur 10 sont perméables aux théories du complot, sans forcément y adhérer, on est d'accord, et que 20% adhèrent à la quasi-totalité. Aux États-Unis, ce chiffre s'élève à 55%. Le profil de ces conspirationnistes, c'est des personnes avec une défiance préalable envers les institutions politiques. Les jeunes, donc, seraient les plus adeptes de ces théories. D'abord parce qu'ils ont une tendance plus élevée à remettre en question les institutions, mais aussi car ces théories fleurissent sur des plateformes comme YouTube ou X. Et en fait, le développement du complotisme, il est aussi relié à ce dont on discutait plus tôt, sur la saturation face à trop d'informations. Au vu du flot d'informations que nous recevons chaque jour, de nombreuses personnes se sentent débordées et ne savent pas vraiment quoi ou qui croire. Ils choisissent donc ces théories alternatives pour essayer d'expliquer des phénomènes qui les dépassent, comme la crise du Covid par exemple, ou les expéditions sur la Lune qui n'ont jamais existé, comme nous le savons tous. Bref, pour le chercheur, ces théories s'installent vraiment dans nos démocraties en étant relayées par des médias, des personnalités publiques et même des journalistes ou des intellectuels. Avez-vous déjà entendu parler de l'adrénochrome ? Cette substance qui serait sécrétée par le cerveau humain et qui permettrait de rester jeune ? Ça fait partie des théories du complot que l'on a pu entendre sur le plateau de Touche pas à mon poste, quand l'émission passait encore sur nos écrans tous les soirs. Ce scandale qui aurait été dénoncé sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna toucherait les grands puissants de nos sociétés. Hillary Clinton, le prince Charles ou Emmanuel Macron, voici quelques exemples des personnalités qui consommeraient de l'adrénochrome pour conserver une jeunesse presque éternelle. Et pour produire cette substance, il serait nécessaire d'exploiter des enfants de 3 ans dans un grand trafic humain. Bon, laissez-moi remettre cette théorie en doute. Quand j'entends ça, je remercie vraiment l'ARCOM d'exister.
L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout.
Mais ça, Gérard, de ça, pas Gérard, vouloir aller trop loin. Il y a des gens qui disent que ça existe, hein. Ils disent qu'il a, il a raison là-dessus, que ça existe.
Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a, Céline?
Bon, en gros, Philippe, les habitudes des jeunes pour s'informer, elles ont complètement changé. Mais en fait, les médias traditionnels, ils ont pour la plupart su s'adapter à ces changements et ils jouent le jeu de la numérisation ou de l'utilisation des réseaux sociaux pour attirer les lecteurs. Je suis d'accord, lire les journaux a un certain charme, notamment celui de pouvoir conserver une trace de certains articles qui nous ont plu. Je pense à ma maman qui adore découper les articles qu'elle a aimés, les mettre dans une petite boîte ou nous les distribuer à mes frères et sœurs et moi lorsqu'ils nous concernent. Une habitude que partage Philippe apparemment.
Quand j'avais le papier, je cochais, j'écrivais, je prenais des notes, je découpais. Et puis surtout, quand un article ne me plaisait pas, j'en allais en voir un autre. Puis je revenais dessus facilement, j'ouvrais le papier, tout ça. Là...
Donc même si les jeunes se saisissent nettement plus de nouveaux médias pour s'informer, c'est pas forcément eux qui diffusent les fake news. Alors ne vous inquiétez pas Philippe, la situation n'est pas si catastrophique. C'était Violette pour l'entretemps, un samedi sur 4 sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Cet épisode sera disponible en replay sur le site de Radio Campus Paris. Et je tiens à remercier Philippe pour sa participation en joue à cet épisode et Clara Lisa pour les enregistrements. Promis, cet épisode ne contenait aucune fake news. À dans 4 semaines, bisous.